Il est l'heure donc de recevoir mon invité aujourd'hui dans notre studio de Digne-les-Bains. Il s'agit de Lucile Thiébaut, chef de projet Territoire Pleine Santé, Service Développement Économique à P2A, donc Provence-Alpes Agglomération. Bonjour,
bonjour
Lucile. Bienvenue.
Merci.
Et puis, eh bien, on va parler de la Silver Economy. Qu'est-ce que c'est ?
Tout à fait, la silver economy, si on parle de silver economy, c'est parce qu'il y a transition démographique. Alors, on va expliquer un petit peu. Donc, silver economy, l'économie d'argent, donc l'économie des cheveux blancs, c'est tous les services, produits et activités qui permettent d'améliorer la qualité de vie, le confort des personnes âgées. Donc, sur la vie sociale et qui peuvent même améliorer l'espérance de vie. Si on parle de silver economy, c'est que on parle d'une filière. Hein. Il y a carrément toute une filière qui est en train de se constituer au niveau national. Et c'est aussi un sujet en région Sud-PACA, parce que il y a beaucoup de seniors dans la région. Et donc, ça fait faire partie des filières stratégiques de la région. Et alors, naturellement, transition démographique, pourquoi ? On a actuellement un cinquième des personnes en 2020 qui ont plus de 65 ans. Mais d'ici 2050, on aura un tiers de la population qui aura de plus de 65 ans. Donc on a vraiment une croissance exponentielle du nombre de personnes âgées et ça va transformer en profondeur la société, ça va amener des gros changements. Si vous voyez un petit peu la pyramide des âges, quand on parle de pyramide des âges, c'est une pyramide, et bien cette pyramide elle va se transformer en rectangle. On va vraiment avoir une population très âgée de plus de 60 ans et aussi un nombre de personnes de plus de 75 ans qui augmente. Autre chiffre qui peut nous interpeller, c'est que dans la prochaine décennie, dans cette décennie 2020-2030, il va y avoir une augmentation de 50% des 75-85 ans, ce qui est assez énorme.
Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir alors les personnes âgées ?
Et oui, c'est un vrai sujet. Alors cette transition, elle n'est pas qu'en France, hein. Elle est au niveau de l'Europe, elle est au niveau aussi mondial. On estime que, pareil, en 2050, il y aura un sixième de la population dans le monde qui aura plus de 65 ans, alors que actuellement, on est à 1 sur 11. Et qu'est-ce qu'on va devenir ? Et ça se prépare. Et le problème, c'est que pour l'instant, dans la société, cette question démographique n'est pas encore au cœur du débat. Et c'est là où la filière, toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet des personnes âgées alertent un petit peu. Parce que tout comme certains changements qu'on voit pas venir, là on a les statistiques, on sait que ça va arriver. Donc comment on prépare la société dans son ensemble pour accueillir au mieux et permettre de se bien vieillir ?
Alors comment ?
Il y a différents enjeux. La prévention. Alors on est dans un système de santé en France, on est beaucoup sur le curatif, on se fait soigner à l'hôpital. Mais il y a un sujet qui on en parle de plus en plus, mais faut que ça prenne plus d'ampleur. C'est vraiment cette question de la prévention et bien vieillir. C'est aussi s'occuper de sa santé et de la prévention tout le long de la vie. Donc là il y a un vrai sujet de changer de paradigme par rapport à ce sujet de la prévention.
On est très 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 informé maintenant par rapport le sport pour tous,
beaucoup plus
l'alimentation,
tout à
les
fait.
Dépistages.
Mais on a quand même une grosse marge de progression par rapport à d'autres pays. Les pays nordiques, nous on est en bonne santé, enfin on vit en bonne santé à peu près jusqu'à 64 ans. Et il y a des pays où ils vont être en meilleure santé plus âgés. Donc honnêtement en France ça s'améliore, mais on a encore beaucoup de progrès. Il y a aussi la question de l'accès aux soins. Les personnes âgées vont être beaucoup plus consommatrices de soins, ce qui est normal. Hein. On a des fragilités, on commence à avoir des maladies chroniques, plus de spécialistes. Donc ça va être aussi, dans un contexte de tension et de désert médical, un gros sujet de tension sur ce sujet.
Oui, alors la prévention de plus en plus nécessaire, justement, à cause de la désertification médicale.
Complètement.
On va revenir et à la prévention et au remède de grand-mère à force de plus trouver de médecin.
Alors, c'est sûr que... Et après, il y a des territoires, et nous, on est bien identifiés comme territoire. On est plus sur des médecines un peu alternatives, mais on a besoin aussi de l'ensemble des spécialistes. Donc, un sujet sur lequel il va falloir la société... et les institutions travaillent dans ce sens, parce que gros enjeu. On a aussi le maintien de domicile. Alors là, en plus, la crise du Covid fait que les personnes veulent de moins en moins aller dans les EHPAD. Il faut remettre les chiffres, hein, parce que finalement, c'est qu'une personne sur 10 de plus de 85 ans qui est en EHPAD. C'est pas tant que ça. Donc ça veut dire que dans les plus de 85 ans, il y a 9 personnes sur 10 qui vivent à domicile. Et là, il y a un enjeu de d'adapter le domicile, qui sont en général pas du tout adaptés. Comment on fait de la prévention pour éviter les chutes? Il y a plein de petites choses qui peuvent se mettre en place. Et là, bah, il y a un projet du gouvernement de mettre en place MaPrimeAdapt, comme on a eu MaPrimeRénov. Donc voilà, il y a des avancées et pour justement sécuriser l'environnement des seniors.
Alors, ça veut dire quoi? On met des rampes un peu partout dans la maison.
Alors après, il y a des choses très accessibles. Et là-dessus, parce que personne n'a envie de se voir vieillir, c'est le sujet. Et puis, le beau tapis qu'on a toujours eu, on n'a pas envie de l'enlever. Et en fait, il y a des petites choses très simples qu'il faut mettre en place. Et là, je pense qu'il y a vraiment un rôle des aidants, enfin en tout cas de la famille, à accompagner et à pousser. Parce que la personne, tant qu'elle n'a pas chuté, n'a pas envie de se dire bon bah je me sépare de mon tapis, je mets une rampe mais c'est pas, ça fait pas joli, parce que il y a aussi l'image que ça renvoie à soi, aux autres, à nos invités, à nos amis, et on n'a pas envie. Et pourtant on sait que si on sécurise, si on diminue les chutes, bah c'est comme ça que ça va permettre un meilleur maintien à domicile.
C'est vrai que les personnes âgées ont du mal à avouer qu'elles sont tombées, qu'elles sont retombées.
C'est extrêmement difficile. On n'a pas envie de le voir. Donc, mais je pense que les générations, c'est en train de changer. C'est en train de changer de voir aussi les effets de nos parents et de se dire bon, ok, comment je fais pour améliorer les choses. Donc, non, ça c'est un gros sujet sur le maintien à domicile. On a aussi la question de la mobilité, surtout ça dépend d'où on vit, mais quand on vit en milieu rural, quand on a une maison excentrée, on sait qu'en fait pour une personne âgée, ça va être un rayon, enfin quand je vous dis personne âgée, parce qu'il y a plusieurs, hein, parce que comme on parle de senior à partir de 60 ans, tout le monde ne sent pas senior à partir de cet âge, donc vraiment on a plusieurs niveaux disons quand on commence à être vraiment plus âgé, autour de 80-85 ans, le rayon il est de 500 mètres en fait, en fin de compte. Et donc là, il faut que les collectivités, elles aménagent avec des bancs, il faut adapter pour que ça puisse faciliter les choses. Et là, on se rend compte que les collectivités, les grosses entreprises comme la SNCF n'ont pas du tout vu ce cap arriver et n'ont pas anticipé. Prendre le train, c'est hyper stressant. Quand notre voiture est au bout du quai alors qu'on vient d'avoir à Marseille l'indication de son train, je peux vous dire, pour une personne qui a une mobilité réduite, tout simplement parce que on perd de la stabilité en vieillissant. Donc c'est un énorme sujet. Et puis avec le sujet de la voiture en milieu rural. Ensuite, on a aussi l'enjeu des aidants. Ça, c'est énorme. Alors, les gens ne se reconnaissent pas forcément comme aidants. On appelle aidants familiaux toutes les personnes qui vont aider, accompagner une personne. Ça peut être de la famille. Dans la majorité des cas, c'est la famille, mais ça peut être aussi un voisin. Aujourd'hui, on estime à un adulte sur cinq qui est aidant. Mais cette proportion, elle va vraiment augmenter dans les prochaines années avec une augmentation vraiment croissante.
Là, il y a des choses qui vont être faites au niveau indemnisation, on va dire, pour les aidants, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
Alors, sur le sujet, on a aussi une grosse marge de progression. Dans la majorité des cas, quand même, c'est des femmes qui sont aidantes, qui sont actives, donc des personnes qui travaillent. C'est épuisant, ce rôle d'aidant. Donc, il existe des congés des aidants, mais qui ne sont pas forcément indemnisés, pas forcément mis en place dans toutes les entreprises. Donc, il y a vraiment ce statut à travailler, déjà que les personnes se reconnaissent en tant que telles, elles ont droit à un accompagnement, elles ont droit à du répit. Il existe des plateformes de répit, vous pouvez vous renseigner si vous êtes aidant, parce que tout comme les personnes âgées ne veulent pas voir qu'elles vieillissent, les aidants se disent non, ça va aller, c'est ma mission, c'est normal. Et en fin de compte, c'est des personnes, justement, on parlait de prévention, qui s'occupent pas d'elles, qui prennent pas soin de leur santé. Et là où ça devient très très compliqué, c'est quand cet aidant devient malade. Qu'est-ce qu'on fait de l'aider? Donc, c'est vraiment assez problématique. Et en plus, dans une transformation des familles où les gens grandissent loin de leurs enfants, des fois les enfants sont au bout du monde, et c'est très complexe.
Il y a aussi des groupes de parole, parce que, c'est aussi être aidé sur le plan psychologique.
Tout à fait. Il existe différents. Surtout, faut qu'on est aidant. Faut s'identifier en tant que tel. C'est-à-dire, ah oui, mais en fait, moi, j'accompagne. Alors ça, là, on parle des seniors, mais ça peut être aussi un enfant handicapé. Et se rendre compte, c'est pas rien. On n'a pas besoin d'avoir une médaille tous les jours, mais avoir une prise de conscience de l'entourage. Et puis, voilà, il existe des lieux où on peut échanger, entre aidants, on peut aussi se faire du bien. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, si on continue dans ce que ça va transformer dans la société, on parle d'économie, parce que ces seniors, il y a eu un numéro spécial Courrier International la semaine dernière sur les seniors, et il parle même de teenager. C'est-à-dire que teenager, c'est une contraction entre senior et teenager, parce que ça montre que les seniors d'aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes seniors que il y a quelques décennies. Non, pour certains, les lotos, les balles dansantes, ça les intéresse pas. Et ils ont comme une seconde jeunesse avec moins de contraintes familiales, plus de pouvoir d'achat, et ils se font plaisir.
Et il y a de plus en plus de seniors qui sont surbookés, même à la retraite, qui font partie d'un tas d'associations.
Voilà. Complètement.
On a besoin d'eux, d'ailleurs, dans les associations.
Et le monde bénévole, le monde des associations fonctionne en grosse majorité grâce aux personnes âgées. Et ça, c'est un super investissement. Puis ça permet, dans les critères pour aller bien et pour bien vieillir, il y a naturellement donc ce qu'on a parlé de la prévention, donc faire du sport, l'alimentation, mais la vie sociale et la stimulation intellectuelle. Et pour ça, les associations, c'est un formidable vivier de liens sociaux et c'est extrêmement important. Et toutes les associations sportives qu'on a qui fonctionnent grâce aux bénévoles. Donc c'est sûr que il faut pas hésiter justement et rompre l'isolement, parce que c'est justement quand on est dans sa bulle, dans l'isolement, où là c'est moins simple, on perd le moral. Et non, il faut pas hésiter à s'ouvrir. Il y a plein d'associations sur lesquelles s'investir.
Alors comment les territoires travaillent ce sujet?
Eh ben oui, il faut se préparer. Et c'était bien ça le sujet, c'est-à-dire que la société française doit se préparer. Donc ça, il y a une prise de conscience progressive du gouvernement, mais tous les territoires, les villes, les collectivités territoriales, elles doivent aussi anticiper ce changement. Vraiment, on est sur une énorme transition démographique. Là, on a parlé des enjeux, mais ça va vraiment transformer. Donc, comme je vous disais, ça fait partie, la silver economy, des filières prioritaires de la région sud PACA. Et moi, je vous parlais à titre d'exemple, Provence-Alpes-Agglomération, en tant qu'agglomération autour de la ville de Digne-les-Bains, elle a pris en main cette thématique, parce que déjà, on a plus de seniors qu'au niveau national, qu'au niveau régional, parce qu'il y a un fort taux de personnes âgées, et on a mené une stratégie autour de la pleine santé. Pourquoi ? Digne-les-Bains, c'est une ville thermale, avec des thermes, on accueille aussi bien, on a beaucoup d'habitants qui sont seniors, et on accueille aussi beaucoup de touristes. Donc, on a pris le sujet à bras-le-corps, et on a travaillé différents aspects, on parlait de prévention, on a créé une maison sport-santé, où on propose des programmes passerelles, sur justement pour les personnes de plus de 60 ans. Ça permet de mettre au sport les personnes qui sont éloignées de la pratique. C'est pas le cas de tout le monde, comme on disait, il y a plein de seniors qui sont déjà dans des associations. On a mis en place alors un Living Lab.
Qu'est-ce que c'est Living Lab? Toujours, c'est un laboratoire.
C'est un laboratoire d'innovation en santé, tout à fait, qu'on appelle aussi Atelier 7.7, et sur lequel, en fait, le principe, c'est de travailler avec différents acteurs. On travaille aussi bien avec des chercheurs, les aspects de formation, la formation initiale, la formation professionnelle, les acteurs du territoire, et c'est un peu notre lieu totem de la silver economy sur le territoire. Et il y a des actions dans les murs, mais aussi plein d'actions, d'expérimentations qu'on a menées sur le territoire.
Donc, par exemple, à Digne, on peut retrouver tout un équipement pour venir en aide à l'installation des...
Concrètement, là, je vous parle de projet d'innovation, mais concrètement, c'est un appartement pédagogique qui permet justement d'illustrer comment on peut équiper le logement. L'idée, c'était de de pas avoir un appartement complètement technologique avec des alertes partout, et il faut qu'il soit adapté aux besoins et au pouvoir d'achat du territoire. Donc il y a plein de choses très simples qu'on peut mettre en place, des choses auxquelles on n'a pas pensé, des choses qu'on sait mais on fait pas, et c'est montrer dans un appartement joli que ça peut être bien intégré, que on peut intégrer certaines choses chez soi, très pratique. Et voilà, c'est un lieu qui vit.
Et alors justement, il y a des aides pour équiper les appartements de seniors de cette façon avec...
Alors justement, c'est tout le sujet. Ça, c'est un sujet qu'on travaille avec le conseil départemental, hein, qui est avec les aides, on appelle APA pour les personnes âgées. Il y a des aides, il existe un métier qui est très peu connu, qui va se développer, dont on va avoir besoin, qui est le métier d'ergothérapeute. Ce sont des spécialistes justement qui viennent à domicile, qui peuvent faire des évaluations et qui peuvent conseiller la personne âgée. Après, on peut monter des dossiers aussi avec l'association, par exemple, sur le territoire Logia, qui accompagne au montage de projet pour refaire sa salle de bain, par exemple. C'est le sujet le plus prégnant sur la thématique.
La barre pour se tenir.
Oui, puis surtout de passer de la baignoire à la douche italienne, où il n'y a pas la marche, où on peut mettre une chaise. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. On a expérimenté ce qu'on appelle aussi une technicothèque avec le conseil départemental et la MUT au niveau régional, qui a un dispositif qui permet d'attribuer des aides techniques et les réattribuer, justement. Et il y a un principe de tiers payant. Donc, c'est des choses qui existent sur les différents départements en région PACA et qu'on expérimente en ce moment au niveau du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Voilà, il y a plein de choses qui vont se faire. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que, honnêtement, le parcours pour équiper ou pour faire des travaux est extrêmement complexe. Il y a plein d'interlocuteurs, il y a les mutuelles, il y a les compléments en retraite. Et pour une personne lambda, et je pense aussi aux aidants, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un casse-tête administratif. Donc comment on fait pour simplifier, pour fluidifier? Et là, il y a vraiment des gros enjeux sur le sujet. Donc c'est pas encore gagné, mais l'ensemble des acteurs y travaillent et il faut améliorer ces aspects.
Donc sur le département ou sur la région PACA, est-ce qu'on est, on peut dire que ça va dans le bon sens?
Ça va dans le bon sens. En plus, on a ce qui est bien, c'est que à travers ce qui est impulsé au niveau régional, avec la région, au niveau des territoires, tous les acteurs travaillent ensemble sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a la recherche, on a les entreprises, parce qu'on a besoin aussi des start-up qui créent des solutions. Souvent, ça vient des initiatives personnelles et ils vont créer une solution. Et ça, on en a besoin. Et puis, les collectivités, les services publics, les associations. On n'a pas parlé, mais naturellement, les associations d'aide à domicile qui sont vraiment en tension, avec des métiers en tension.
Qui demandent toujours des salariés
qui appellent à recruter, et on a besoin et donc il faut valoriser les métiers, il faut former les jeunes à ces métiers, et ça va dans ce sens-là.
Ça mériterait quand même une augmentation pour motiver un peu les personnes qui travaillent à l'ADMR. On sait que elles sont quand même pas beaucoup payées.
Alors après, c'est pas la faute de l'association en elle-même, parce que c'est une question, ces tarifs.
C'est intéressant pour les personnes âgées qui font appel à l'ADMR, mais
c'est des tarifs plafonnés, donc c'est réglementé, donc il est difficile pour l'instant, mais en effet, et encore, en plus, ils ont été revalorisés, mais et ce n'est pas suffisant. C'est souvent des tiers-temps. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment un sujet complexe, l'attractivité de ces métiers et la valorisation. Et en plus, il va falloir aussi travailler sur l'optimisation. En ce moment, justement, sur toutes les personnes qui interviennent à domicile, on est sur du papier, sur un cahier de liaison, et il existe des outils. Et là, il va falloir aussi avancer pour permettre à tous les acteurs de se coordonner via des outils numériques. Et il y a un gros travail de coordination sur lequel nous, on a travaillé au niveau de Provence-Alpes-Agglomération, et de décloisonner l'aspect professionnel de santé et médico-social. Et pour l'instant, le système, il est très cloisonné. L'idée, c'est que de plus en plus de travailler main dans la main pour une meilleure prise en charge des personnes âgées. Et surtout, ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'hospitalisation, parce qu'on sait qu'après, c'est assez compliqué.
Lucile Thiébaut, merci beaucoup. Il est déjà l'heure de nous quitter. On rappelle que justement, à propos des seniors, à Digne, une journée de dépistage, prévention, santé à destination des seniors aura lieu le 11 mai, je crois. crois.
11 mai, tout à fait.
Le 11 mai, samedi, de 8h à 17h, c'est gratuit, sur inscription au clic du Pays d'Inois.
Pour les dépistages.
Voilà. Merci beaucoup.
Et ouvert à tous. Merci. 11 mai, au revoir.